LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Bah, y a juste un coiffeur que j'aime bien, mais il est allé à la retraite, du coup je veux plus aller chez le coiffeur.
Quand j'étais petite, que j'avais les cheveux longs, que je me suis coupée, mais après j'ai dit je vais plus y aller parce que j'avais trop peur, parce qu'il y avait la tondeuse et les ciseaux. Je pensais qu'ils allaient me couper la tête.
Alors j'en avais marre de ne pas trouver mon coiffeur à domicile parce que c'était souvent voilà, à la dernière minute par rapport à mon activité. Voilà. Et un jour je me suis baladée à Strasbourg et je passe dans cette petite rue et c'est juste le lieu qui m'a happée. Je suis rentrée, bon j'avais des cheveux, Marc se souvient très bien. Enfin mardi matin, il se souvient, incroyable. Et c'est le lieu en fait qui m'a happée, la devanture, même juste le petit panneau à l'extérieur, la rue des Tonnes-les-Roues, même le nom de la rue. Mais c'est vrai qu'on se sent bien, en plus il prend à l'heure, il est respectueux, c'est juste bien.
Moi j'ai un rapport particulier avec les coiffeurs, enfin particulier dans le sens où pour moi le coiffeur c'est comme le dentiste. Longtemps j'ai eu peur des coiffeurs. À cause de mon enfance et tout ça, ma mère me faisait tout le temps couper les cheveux tout court comme un garçon quand j'étais petite. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal avec les coiffeurs au début. Et j'avais presque plus peur que d'aller chez le coiffeur que chez le dentiste. Et en fait, une fois que j'ai trouvé le bon, je ne change plus. Quoi. C'est, voilà.
Alors, mes cheveux à moi sont les cheveux de mon papa, puisqu'il y a un héritage capillaire qui est là. Donc j'avais des très très beaux cheveux, j'étais un beau petit gamin blond avec des cheveux très épais et j'en ai pas profité très longtemps puisque vers 17-18 ans j'ai commencé à perdre les cheveux. À l'époque des Zidane, les cheveux avaient leur moment de gloire aussi à ce moment-là et ça me manque pas.
Les cheveux en 4, épisode 1. Et le cheveu fut. Claudia Prolongeau, Clémence Gross.
Je m'appelle Marc, j'ai 52 ans. J'ai commencé le métier de la coiffure à 16 ans. C'est quelque chose qui m'est venu très très jeune, étant d'une grande famille avec beaucoup de sœurs. Je m'amusais effectivement à les coiffer, à être derrière elles sur le canapé, l'une après l'autre, à brosser les cheveux. C'était des petits rituels. Et j'ai toujours cette pensée où, quand maman rentrait du coiffeur, je lui tirais la tête parce que je voulais sentir les produits. Et je m'en suis rendu compte très très vite que c'était ça mon métier. Mes parents voulaient pas que je devienne coiffeur. J'aurais dû être normalement boulanger-pâtissier ou cuisinier, mais en aucun cas coiffeur. Donc c'est grâce à une de mes grandes sœurs que j'ai pu faire cette formation de CAP, puisque c'est elle qui m'a aidé à faire les démarches après. Je pense qu'il y avait toute cette éducation catholique, parce que c'était peut-être mal vu. Et pour eux, effectivement, être coiffeur dans la famille, c'était pas quelque chose d'essentiel. Donc je me suis donné doublement, pour justement leur prouver à ce moment-là que j'étais fait pour ça.
Non, là, bon, après on se connaît, hein, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Quand il me voit arriver, je pense qu'il sait si c'est un bon jour ou un mauvais jour. Mais...
Comme d'habitude, on rafraîchit un peu.
Pourquoi on va chez le coiffeur ?
Michel Messu, sociologue, auteur d'un ethnologue chez le coiffeur.
Oui, très bien.
Alors d'abord, on n'est pas toujours allé chez le coiffeur et tout le monde ne va pas d'ailleurs toujours et tout le monde n'est pas allé chez le coiffeur. C'était d'abord plutôt les hommes qui allaient dans les salons de coiffure, dans la Grèce antique, à Rome, etc. Et il existait des lieux qui en fait étaient des salons de coiffure, on se taillait la barbe, on rasait, on coupait le cheveu, parce que les Romains avaient plutôt le cheveu court, dans l'aristocratie, dans les classes supérieures, comme on dit maintenant. Et c'était un lieu effectivement où les hommes se rassemblaient pour échanger, pour discuter, pour connaître un peu ce qui se passait dans la cité. Les femmes n'allaient pas dans les salons de coiffure, elles se faisaient coiffer chez elles. C'est une activité domestique, la coiffure de la femme, et ça va le rester jusqu'à la fin, au début du XXe siècle. Et c'est tardivement, en fait, qu'on va voir des salons de coiffure apparaître. Et c'est notamment le cas aux États-Unis, avec ce qu'on pense être la première chaîne de salons de coiffure féminin qui avait été créée par Martha Harper, qui était une Canadienne émigrée aux États-Unis et qui avait mis en place finalement des salons pour femmes. Elle avait eu des difficultés d'ailleurs, parce qu'on avait d'abord pensé que ces salons-là, c'était des lieux de prostitution en quelque sorte. Et puis petit à petit, elle a imposé finalement sa façon de voir les choses. Donc on a traité le cheveu de la femme et le cheveu des hommes de manière différente, dans des espaces différents à travers l'histoire. Le salon de coiffure, c'est en fait un lieu qui est toujours présent plus ou moins dans nos sociétés. Alors on a beaucoup de salons de coiffure encore aujourd'hui qui se font à l'extérieur, dans la place publique. On va couper le cheveu dans l'espace public ou dans des petits réduits, des espaces très particuliers, mais c'est le plus souvent pour les hommes que ça se fait, quoi. Ce que je voulais rajouter, c'est que dans ces salons, on ne fait pas que couper les cheveux, tailler la barbe ou arracher des dents par la suite lorsque le barbier était aussi un chirurgien. On échange aussi. Il y a des interactions sociales. C'est-à-dire que très vite, le salon de coiffure est un lieu de rassemblement dans lequel on va pouvoir échanger. On va pouvoir comploter, on va pouvoir faire toutes sortes de plans. Donc, c'est un lieu de sociabilité par rapport à la cité et à l'ensemble social. D'une sociabilité quotidienne, en fait. Hein. Quand je dis comploter, bon, c'est pouvoir éventuellement créer des alliances, mais bon, dans une sociabilité tout à fait ordinaire, au point que il y a des tas de blagues qui existent sur les salons de coiffure très vite. Par exemple, celle que j'ai retrouvée dans le Philolégos, qui date d'une blague du 4e siècle ou 5e siècle avant notre ère. Et c'est le coiffeur qui demande à son client « Je vous coupe les cheveux comment ?» Et le client répond en silence.
J'ai horreur qu'un gominé gourmette me chahute le cuir chevelu avec ses grosses papates embagousées aux ongles éclatants de vulgarité manucurale. J'ai horreur qu'un brumel de bal disco me gerbe dans le cou le crachat impostillonnant des réflexions de philosophie banlieusarde que lui inspire sporadiquement la hausse du dollar, l'anus artificiel du pape, l'inappétence sexuelle de la petite Grimaldi depuis la mort de sa mère en bagnole. L'agonie de Saint-Étienne, le courage des Polonais, le déclin de l'Occident, le fibrome de sa femme. Pas de la femme de l'Occident, de sa femme à lui, le super Merlan néo-romantique de mes deux. La montée de la violence dans les quartiers cosmopolites. Et puis, bien sûr, l'indiscipline problématique de l'arrêt de mon coin.
Les premières mentions des barbiers qui coupent les cheveux
de l'arrêt de mon crâne
indiqueraient que les Romains auraient reçu
Bertrand Lançon,
des barbiers,
historien, auteur de Poils et pouvoir.
Fin du 4e siècle, à l'époque d'Alexandre le Grand. Ce qui introduit le soin du cheveu dans la société romaine qui se voulait plutôt fruste et non sophistiquée. C'est un des vecteurs d'hellénisation de la société romaine, et ce vecteur, il se trouve aussi matérialisé par les réalia archéologiques, c'est-à-dire des peignes, des rasoirs, des fers à friser. Il y a tout un matériel qu'on trouve aujourd'hui dans les musées qui sont en quelque sorte la trousse des barbiers gréco-romains. Alors on sait par les historiens latins comme Suétone surtout que Jules César avait une chevelure peu fournie qui tirait vers la calvitie et qu'il en était très marié de ça. Et donc, il essayait de regrouper ses cheveux, la couronne de laurier pouvait l'aider à ça, et il en avait honte, comme quoi le cheveu était un signe valorisant, l'abondance des cheveux. On trouve dans des textes des indices qui évoquent les perruques cérémoniales des empereurs romains, qui étaient des perruques saupoudrées de poussière d'or. Là, on n'est plus dans la coquetterie, mais on est dans la théâtralité du pouvoir impérial. L'empereur s'extrait de la condition humaine, il devient en quelque sorte surhumain et intermédiaire entre les hommes et les puissances divines.
César a tout réussi, tout conquis. Ne t'inquiète pas. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel. Pour longtemps.
Dans la distinction du cheveu des femmes et du cheveu des hommes, c'est très difficile de dater cette distinction parce que jusqu'ici, toutes les traces qu'on a trouvées, on s'aperçoit que les représentations qui sont faites des hommes et des femmes le sont pratiquement toujours avec des coiffures différentes.
Michel Messu.
Les statuettes qu'on a pu trouver, on voit que c'est des coiffures très arrangées. Les femmes ont des tresses, ont des couronnes, etc. Et de couronnes de cheveux, hein, j'entends. Et on voit bien que le cheveu masculin est traité différemment. Et cette distinction, lorsqu'on commence à avoir des textes, des écrits sur lesquels on peut se baser, elle est faite d'abord parce que le cheveu féminin est considéré comme un signe de séduction, de beauté de la femme.
Les hommes, au fond, ne sont pas leurs cheveux. Ils seraient éventuellement leur barbe, mais peut-être pas tellement leurs cheveux. Tandis que la féminité, c'est la chevelure.
Michèle Perrot, historienne, autrice de Mon histoire des femmes.
Et son instrument de séduction, son instrument de domination aussi, puisque la grande question de voiler les femmes, de cacher, c'est aussi un symbole politique très puissant. Et la religion joue un très grand rôle dans l'histoire des cheveux des femmes. On pense à Tertullien, qui est un père de l'Église fameux du IVe siècle. Il consacre 2 livres aux vêtements des femmes, pas absolument aux cheveux des femmes, mais au corps des femmes. Et pour lui, la femme est dans ce christianisme, presque pas des origines, mais enfin tout de même antique, la femme c'est le péché. C'est Ève. C'est elle qui a fait succomber l'homme. Et si elle fait succomber l'homme, c'est par sa beauté et par ses cheveux. Et par conséquent, il faut voiler les femmes. Parce que voiler les femmes, ça va être empêcher les hommes d'être tentés. Ce sont des hommes qui écrivent. Faut pas l'oublier. Donc les hommes pensent à eux et à la tentation que représentent les femmes. Et ils veulent pas pécher, ils veulent pas succomber. Donc voilons les femmes, écartons les femmes.
Et en fait, les coiffures ont tellement évolué qu'on a adapté les coiffures en fonction des gens, de leur mode de vie. J'ai eu cette chance-là d'avoir un peu les vieux de la vieille encore, qui ont connu cette époque où effectivement on lavait moins les cheveux, on avait moins de produits, mais on savait coiffer, on savait faire des beaux chignons, on savait crêper. J'ai aimé ça parce qu'en fait, c'est aujourd'hui ma base.
Les cheveux, ce n'est pas seulement une question de cosmétique. On n'est pas dans la fashion, comme on dit aujourd'hui. Il y a des modes, c'est vrai.
Bertrand Lançon.
Mais ces modes, si on prend les empereurs romains par exemple, sont assez liés au pouvoir. Si on prend Trajan au début du IIe siècle, il a les cheveux courts et il est glabre à la manière d'Auguste, qui est réputé chez les Romains le plus grand empereur. Une fois qu'Adrien impose une image plutôt grecque d'un homme à cheveux mi-longs bouclés avec une barbe fournie, il crée le modèle des empereurs antonins. Le pouvoir impérial est en quelque sorte incarné par le capillaire. Et Constantin, au début du IVe siècle, qui, comme César, se plaint d'alopécie, se fait raser la barbe et renoue avec le modèle de Trajan et d'Auguste, les deux meilleurs empereurs, tels qu'ils sont honorés par le Sénat. Donc, les cheveux agissent en quelque sorte comme un programme politique, c'est-à-dire, de qui me fais-je l'héritier ?
Je m'appelle Marc-Aurèle Brébia, j'ai 18 ans. Et je suis titulaire du CAP, je fais mon brevet professionnel pour l'instant. Je travaille chez Marc Fabien, 3 rue du Tonnelier Rouge. Et j'habite à Strasbourg, je viens en vélo tous les matins tranquillement. Et j'adore, ça me plaît. En fait, moi j'ai jamais été très bon en cours. Sans vous mentir, c'est pas les cours, j'arrive pas à les suivre, je retiens pas bien le truc et tout. Et j'ai toujours aimé travailler avec mes mains en fait. Et en quatrième, je crois, j'ai fait pas mal de stages et tout. Et la coiffure, j'ai kiffé, tout simplement. Partager avec les clientes et tout, être à l'écoute. Donc j'ai dit à 16 ans, allez, après la troisième, j'y vais. CAP, et maintenant je suis en BP. BP, c'est brevet pro, professionnel. Bah, en fait, je suis en alternance. Lundi, mardi, j'ai cours. Et mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je bosse. Bah, ce que je maîtrise le mieux, les shampoings, alors. Les shampoings, parce que ça va être bizarre à dire, hein, mais... Quand je fais un shampoing à quelqu'un, quand je fais le massage, je suis connecté des fois. Quand j'ai de l'énergie, y a un truc, je le ressens. Je sais pas, je peux pas l'expliquer, mais j'aime bien faire les shampoings. Ça me détend tout autant que la cliente. Donc en mars, j'ai mon examen blanc. Il faut rapporter des modèles, d'un modèle femme, modèle homme. Les voisines, y a tout, on peut trouver. Mais en tout cas. Voilà, il faut ramener des modèles et tu dois travailler sur eux pour l'examen.
Il y a aussi le poil fourni, la pilosité fournie.
Bertrand Lançon.
Non cosmétisé, non soigné. C'est-à-dire avec, chez l'homme, une barbe abondante et des cheveux longs, c'est l'image du barbare. Les germains, en particulier. Et de ce point de vue-là, le romain se distingue du barbare en tant qu'être civique et civilisé par le fait de faire tailler ses cheveux.
Allez, donc j'ai dit, je sèche et je fais la coupe après.
Oui, hein. Merci.
Certes, les cheveux valent qu'on les soigne, dans un livre aussi bien que sur nos têtes. Ce sont eux qui protègent le siège même de la pensée. Eux qui sont le signe visible de notre supériorité physique et morale, puisque de toutes les créatures qui peuplent le globe, nous sommes les seuls qui ayons été armés de ces soyeux filaments. Eux enfin qui sont la partie de notre corps qui se rapproche le plus du ciel et qui le plus directement y aspire. De sorte qu'en variant un peu le mot du poète latin, nous avons le droit de nous écrier, non sans une certaine fierté, Comam homini sublimem dedit. Dieu donne à l'homme une chevelure sublime.
Histoire de la coiffure, de la barbe et des cheveux postiches, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 1851.
La raison pour laquelle on accorde tant d'importance aux cheveux, c'est que le cheveu est un poil.
Michel Perrault.
Et le poil, c'est quelque chose qui pénètre dans le corps. Autrement dit, le cheveu poil introduit un lien essentiel, biologique, entre l'intérieur et l'extérieur. Il est celui qui voit dans l'intérieur et en même temps qui récolte toutes les influences de l'extérieur. C'est ça qui fait cette espèce de magie des cheveux, élevée en mystique. Et être civilisé, au fond, c'est cacher, montrer. Toute la civilisation du corps, au fond, c'est fait de cela. Il y a ce qu'on montre et ce qu'on cache. Et naturellement, cette frontière du caché-montré oscille à travers le temps. Elle n'est pas toujours la même.
On sait par exemple que les pharaons se rasaient complètement le cheveu, les sourcils, etc. et se maquillaient.
Michel Messu.
Parce que c'est, je pense, lié à la fonction qu'il remplissait d'intercesseur entre les hommes et les dieux. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on quittait son apparence proprement humaine pour se rapprocher, peut-être, de l'apparence des dieux. Il y avait une sorte de métamorphose qui se faisait à ce moment-là. Et donc, comme c'est l'Égypte antique était quand même une société très structurée, très organisée, il y avait, selon la hiérarchie sociale, des manières d'arranger, d'agir sur son corps, et notamment sur ses cheveux, qui faisaient que, on devait, en quelque sorte raser son cheveu, sa tête, si on appartenait à la classe des royales, ou au contraire, on devait le laisser pousser, et puis en fonction des croyances, etc., on avait finalement des, on pourrait dire, des consignes à respecter concernant l'entretien de son cheveu, quoi. Cléopâtre était chauve. Et donc, c'est des postiches, déjà, que l'on posait sur la tête, quoi.
Pour ce qui est de la perruque, c'est Louis XIV.
Bertrand Lançon.
Les prédécesseurs, Henri IV, Henri III, portaient les cheveux courts avec barbe. Louis XIII portait les cheveux longs avec barbe. Et Louis XIV, lui, a mis au goût du jour la perruque, la grande perruque, qui là aussi, comme à Rome, sert une théâtralité du pouvoir. Versailles étant une machine théâtrale, comme il a été dit. Mais il voulait une perruque qui en impose, et Louis XIV n'était pas de très grande taille, donc il portait des talons hauts, et une perruque haute qui pouvait ajouter au total une vingtaine de centimètres à sa carrure.
Ça vient d'Espagne, ça. Hein. C'est la perruque qui était importée, on l'appelait d'ailleurs la perruque espagnole, qui faisait qu'on recherchait effectivement à avoir une coiffure très abondante. Et le meilleur moyen d'avoir cette coiffure abondante, c'était d'arranger avec son cheveu naturel des cheveux artificiels. Et on construisait, en quelque sorte, sur la tête des aristocrates de l'époque, des montages qui faisaient que ça leur donnait une coiffure très volumineuse. C'était des perruques assez particulières parce que pour Louis XIV, elle était à fenêtre. C'est-à-dire, ça permettait de faire passer quelques mèches de ses cheveux naturels parce qu'il connaissait un peu l'alopécie. Hein, et donc, on masquait par une perruque abondante. Et on va voir dans cette période-là, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, une abondance de perruques qui marquait à la fois l'appartenance à l'aristocratie et qui était une sorte de jeu de rivalité entre les aristocrates. Plus la perruque était importante, conséquente, haute, elle marquait la proximité avec le roi. Au point d'ailleurs que Colbert était très inquiet concernant les finances de l'État parce qu'il trouvait qu'on dépensait beaucoup trop dans ces artifices de mode, pourrait-on dire, et ça modifiait un peu l'économie. Parce que sur la place de Paris, par exemple, je crois que vers la fin du XVIIe siècle, il va y avoir quelques 200 perruquiers, et puis il y a tous, où, après, avec Louis XIV, etc., on va monter à 800. C'est-à-dire c'est une activité très importante dans une ville qui, à l'époque, ne comportait pas 10 millions d'habitants, moi. C'est l'image qu'on a gardée de Marie-Antoinette avec ses coiffures complètement extravagantes. Et donc, elle avait même fait construire un bateau, la Belle Poule, qui représentait justement le bateau qui avait triomphé de la marine anglaise. Et à l'époque, c'était assez rare. Et donc, elle avait demandé à ses coiffeurs, qui étaient à la fois des mécaniciens, qui travaillaient le métal, etc., des serruriers, on disait, il fallait toute une équipe autour de Marie-Antoinette pour installer sa coiffure. Et il fallait notamment des serruriers qui puissent faire des montages particuliers. C'était une sorte de journal télévisé, si on peut dire. C'est-à-dire, ça reprenait des événements qui venaient de se produire et on installait ça dans le cheveu et on rivalisait à la cour de France pour avoir justement de ces installations, pourrait-on dire, particulières dans le cheveu. Dans les milieux pauvres, populaires, bon, on n'allait pas chez le coiffeur. On se faisait tailler le cheveu de temps en temps lorsqu'il était gênant. Et puis, bien souvent, mais jusqu'à très tard, hein, encore jusque dans les années 50, je crois, dans certaines provinces en France, les femmes allaient une fois par an, lorsque le coupeur de cheveux passait dans le village, vendre leurs cheveux.
Fantine gagnait trop peu. Ses dettes avaient grossi. Les Thénardier, mal payés, lui écrivaient à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait,
et dont le port la ruinait. Un jour, ils lui écrivirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine, et qu'il fallait au moins que la mère envoyât 10 francs pour cela. Elle reçut la lettre et la froissa dans ses mains tout le jour. Le soir, elle entra chez un barbier qui habitait le coin de la rue et défit son peigne. Ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. « Les beaux cheveux !» s'écria le barbier. « Combien m'en donneriez-vous » dit-elle. « 10 francs. Coupez-les. » Elle acheta une jupe de tricot et l'envoya au Thénardier. Fantine pensa « Mon enfant n'a plus froid. Je l'ai habillée de mes cheveux. » Elle mettait de petits bonnets ronds qui cachaient sa tête tondue et avec lesquels elle était encore jolie.
Victor Hugo, Les Misérables, 1862.
Et entre-temps, on l'entretenait plus ou moins. Et la vermine s'installait très vite dans la plupart des chevelures. Donc, le rapport à la propreté ou à la saleté du cheveu, c'est un, pense un rapport qui a dû changer de façon assez plutôt récente, quoi, avec tous les produits d'hygiène que l'on va utiliser lorsqu'on met au point les shampoings pour la masse de la population. Bon, là, effectivement, on va souhaiter un cheveu qui soit propre, sur lequel on ne voit pas des petites bêtes se promener, etc.
Le soin des cheveux n'est pas l'apanage des femmes. Cependant, certaines coupes excentriques, des mises en plis sensationnelles, un excès de fixatif ou de brillantine donnent à un jeune homme une prétentieuse vulgarité. Les cheveux doivent être tenus propres, par de fréquents lavages, coupés fréquemment selon la mode la plus générale. Chaque jour, ils doivent être brossés à fond, sans laisser apparaître ni répandre de pellicules. Les pharmaciens ont des lotions contre cette maladie du cuir chevelu.
Je savais pas que t'avais des pellicules.
J'en ai pas.
Un homme soigneux a dans sa poche un petit peigne dans un étui. Mais il ne s'en sert pas à chaque instant et en public. Ces conseils valent également pour les cheveux féminins, qui doivent encore plus soigneusement être en ordre et très proprement tenus.
Et c'est à ce moment-là que, surtout après la Révolution, que le Paris du 19e, par exemple, est un Paris, où dans les beaux quartiers, il y a des coiffeurs, des salons de coiffure.
Michel Perrault.
Dans un premier temps, les coiffeurs vont chez les dames, chez les aristocrates, chez les bourgeoises. Ils les coiffent devant leur coiffeuse. La coiffeuse, c'est un meuble devant lequel on reste longtemps. Et puis, le temps passant, les femmes vont, de la bourgeoisie surtout, vont s'habituer à aller dans le salon du coiffeur. Mais attention, c'est pas des salons comme nous en avons maintenant, Dieu merci, partout. Hein. Ce sont des salons privés, souvent au premier étage. On se montre pas, surtout. Hein. Parce que se faire coiffer, c'est un geste encore d'intimité. Le cheveu, ça demeure quelque chose d'intime. Donc, se dévêtir tout de même pour se faire coiffer, c'est quelque chose qu'on peut pas faire en public. On n'imagine pas une bourgeoise du 19e dans un salon de coiffure où tout le monde peut regarder à travers la vitre qui est là. C'est pas possible. Donc, il y a quelque chose d'intime qui fait d'ailleurs que le coiffeur est devenu parfois le confident des dames. Il est là, dans cette pièce, avec cette femme qu'il coiffe. Il touche à une partie, au fond, intime de sa personne. Et ça crée, entre le coiffeur et la cliente, une intimité qui, en tout cas, permet la parole à ces femmes qui, souvent, ne parlaient pas tellement. Hein, la bourgeoise, avant la... Il y a le confesseur quand on va à l'église, mais il n'y a pas encore de psychologue, de psychiatre, de psychanalyste, tout ce qu'on veut. Donc, le coiffeur peut être un interlocuteur, voyez. Et il est intéressant de voir que, à travers les cheveux et à travers la coiffure, il y a une intimité qui se dévoile, en quelque sorte. Et en l'occurrence, elle se dévoile discrètement pour un homme qui n'est pas le mari, Hein, alors que la chevelure, c'est le mari ou l'amant qui prennent possession de la chevelure des femmes.
Ne jamais dominer la cliente.
Le coiffeur touche la tête et il parle.
En sachant que moi, je suis debout et elle est assise.
Alors, pas des masses, hein.
Non, juste... mais un petit rafraîchissement.
Voilà, exactement.
Les cheveux ou les bijoux en cheveux, l'apothéose, c'est le 19e.
Michel Messu.
D'ailleurs, ça va s'arrêter après la Première Guerre mondiale. Lorsque, c'est ce que disent les historiens, c'est lorsque les combattants, vers la fin de la Première Guerre mondiale, partent avec une photo de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs promises, etc. Alors qu'avant, ils n'avaient pas de photos, elles n'étaient pas aussi répandues, et ils partaient avec une mèche de cheveux dans leur poche, dans leur portefeuille, enfin, dans... ils conservaient une mèche de cheveux. Donc c'était le moyen symbolique de se rappeler l'être aimé. Pendant longtemps, on a cherché à capter en quelque sorte le cheveu de l'autre pour l'avoir soi-même, c'est-à-dire essayer de le conserver comme la trace du lien que l'on a avec l'autre. Alors, ça se fait peut-être encore toujours. C'est la petite mèche de l'enfant que l'on coupe lorsqu'il dans son jeune âge, que l'on range soigneusement dans un livre parfois, mais, ou dans un petit écrin que l'on va conserver, et que bien souvent on va pouvoir reprendre en disant « Ah, voilà, ça, c'est le symbole de mon enfance, c'est la marque que je suis attaché à lui. » Il y a toutes les chansons, c'est Claude François qui chante une mèche de cheveux, etc. Bon, c'est-à-dire, lorsqu'on s'engage avec quelqu'un sur le plan amoureux, eh bien, on peut lui faire don d'une mèche de ses cheveux. Ça sert à marquer le lien. Et on a vu à partir du 18e de façon très marquante au 19e siècle, comment quasiment une industrie du lien affectueux, j'allais dire, a pu se développer. Parce qu'on a créé des bijoux avec les cheveux de la personne qui marquaient justement le souvenir ou l'engagement que l'on avait pris auprès de l'autre. Et c'est devenu une industrie tellement importante qu'on est passé du cheveu de l'être cher au cheveu du commun. Et on a fabriqué des bijoux cette fois qui se vendaient en cheveux parce que c'était devenu des objets tout à fait valorisés qui apparaissaient comme étant des objets, j'allais dire, de luxe. Comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire bon, c'est pas nécessaire, mais c'est toujours bon d'en avoir. Alors, on a ces deux tableaux, quoi, c'est-à-dire le cheveu et l'objet et éventuellement le bijou qui va marquer l'attachement à une personne singulière qu'on va pouvoir jeter si bon, la rupture arrive. Et puis autrement, l'objet banal finalement du bijou qu'on va exhiber en public mais qui sera considéré d'une grande beauté parce qu'il sera fait avec des cheveux.
Certains maîtres acceptent de divulguer les secrets de leur art. C'est ce que ce coiffeur a accepté de faire. En coiffant devant elle, sa petite fille, il apprend à une maman le procédé très simple d'une coupe efficace.
Alors, la première coupe de cheveux, elle est importante parce que lorsqu'elle laisse des souvenirs, ça peut être des souvenirs traumatisants. Je me souviens de mes boucles anglaises que j'ai vues tomber chez le coiffeur. Bon, je m'en souviens encore. Pourquoi ? Sûrement parce que je perdais quelque chose de moi-même. Et puis, peut-être que ces longs cheveux qui étaient par terre, ben, c'était une certaine dépossession que je voyais. On m'amputait de quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais ça devait être quelque chose comme ça.
Mais poursuivons notre coupe. Première étape, les mèches sont coupées une à une assez régulièrement. La maman est attentive.
Elle est importante aussi parce que c'est la première coupe de cheveux, c'est les parents qui amènent l'enfant chez le coiffeur. Et c'est les parents qui vont demander au coiffeur de faire à leur enfant une tête de garçon ou une tête de fille.
Deuxième étape, les cheveux sont mouillés. Cela vous inquiète, mademoiselle ? Cela permet d'égaliser la coupe.
Alors, c'est Jean-Paul Sartre qui raconte ça très bien. Donc, c'est le début, finalement, de l'entrée dans une forme d'adaptation, finalement, aux stéréotypes sociaux qui sont en vigueur dans la société. C'est-à-dire, être un garçon ou être une fille, bah, ça passe à un moment par des cheveux bien définis.
Après la leçon, les travaux pratiques. Mais la jeune patiente n'est pas si contente que ça.
Bon, c'est les codes des parents pendant longtemps. Et puis, à un moment, alors, bien avant l'adolescence, finalement, maintenant, c'est l'enfant qui va dire « Non, moi, je veux être coiffé comme ça parce que je suis libre, je suis une personne indépendante. »
Séchoir et brosse, et c'est la troisième étape.
« Je veux telle chose et donc vous allez accepter que je puisse avoir ma crête rose à 8 ans. »
Vous voyez que la leçon a profité, même si l'enfant est un peu réticente. Après l'épreuve, le sourire.
Un jour, j'avais 7 ans. Mon grand-père n'y tint plus. Il me prit par la main, annonçant qu'il m'emmenait en promenade. Mais à peine avions-nous tourné le coin de la rue, il me poussa chez le coiffeur en me disant « Nous allons faire une surprise à ta mère ». J'adorais les surprises. Il y en avait tout le temps chez nous. Cachotteries amusées ou vertueuses, cadeaux inattendus, révélations théâtrales suivies d'embrassements. C'était le ton de notre vie. Bref, les coups de théâtre faisaient mon petit ordinaire et je regardais avec bienveillance mes boucles rouler le long de la serviette blanche qui me serrait le cou et tomber sur le plancher, inexplicablement terni. Je revins glorieux et tondu. Il y eut des cris, mais pas d'embrassement, et ma mère s'enferma dans sa chambre pour pleurer. On avait troqué sa fillette contre un garçonnet. Il y avait pis. Tant qu'elle voltigeait autour de mes oreilles, mes belles anglaises lui avaient permis de refuser l'évidence de ma laideur. Déjà, pourtant, mon œil droit entrait dans le crépuscule. Il fallut qu'elle s'avoue la vérité. Mon grand-père semblait lui-même tout interdit. On lui avait confié sa petite merveille, il avait rendu un crapaud.
Jean-Paul Sartre, Les mots, 1963.
C'est peut-être les traces de notre animalité que l'on retrouve là, c'est que le petit enfant, il commence par essayer d'attraper les cheveux de sa mère.
Michel Messu.
Surtout lorsqu'elle porte les cheveux longs, il s'agrippe dessus comme le font des tas d'animaux qui sont portés et qui ont les capacités de préhension. Donc le cheveu, dans ces cas-là, va à la fois marquer l'attachement à l'enfant, bien sûr, mais en même temps la douleur que l'on ressent parce que quand on tire les cheveux, ça fait toujours mal. Et le cheveu, il entre comme ça dans ces rapports physiques, j'allais dire, entre les personnes et les enfants lorsqu'ils sont dans la cour. De récréation qu'ils ont un conflit entre eux, ben, ils commencent par se tirer les cheveux et ça fait pleurer, et pas seulement les filles. Le cheveu reste toujours un moyen d'entrer dans un rapport conflictuel avec l'autre et de lui faire subir une douleur. Mais il faut regarder les choses de près parce que dans d'autres sociétés, dans d'autres civilisations, ça va se passer tout à fait autrement.
Hello, vous êtes bien sur le répondeur de Ambre Coiffure. Évidemment, je suis déjà en train de couper des cheveux, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me laisser un message ou carrément à m'envoyer un texto pour me dire quand est-ce que vous voulez qu'on se voit.
Tu veux que je te coupe les cheveux ?
Quand une apprentie coiffeuse donne à la rencontre toute sa vigueur...
Oh, yeah, 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 yeah.
Comment tu te sens ?
Merveilleuse.
Tout son volume...
Ça, c'est nourri au soleil.
J'ai grandi avec cette idée qu'il fallait lisser les cheveux pour être belle.
Porter cette chevelure,
c'est Ambre Coiffure, le salon voyageur, c'est un documentaire télé.
Ambre Dupont, ancienne journaliste devenue coiffeuse.
Le concept de Ambre Coiffure, le salon voyageur, c'était de partir à la rencontre d'une société, d'une culture, mais de l'aborder via le prisme du cheveu, puisque, de manière générale, quand tu vas chez le coiffeur, c'est vrai que c'est un moment qui est assez intime et du coup qui peut être propice à la confession et qui souvent est quand même lié à des histoires de vie. Donc l'idée c'était voilà, de dresser un petit portrait sociétal, mais tout en passant à la base par les cheveux. Voilà. Donc on pense qu'on parle d'un sujet très léger, mais en fait il y a plein de sens cachés derrière. Par exemple, en Inde, il y a une cérémonie justement qui est liée au renouveau de l'enfant. Ça peut se faire entre un enfant tout petit jusqu'à ce qu'il ait presque 10 ans, puisqu'il y a cette croyance que les premiers cheveux qui vont donc pousser sur la tête de l'enfant sont liés au corps de la mère encore. Et il y a un moment où il y a une cérémonie que tu fais au temple, bien sûr, il y a des musiciens qui viennent, tu invites tes proches, enfin voilà, c'est une vraie célébration. Et en fait, on va raser la tête de cet enfant. Il y a sa mère aussi qui est là et qui aide à ce moment-là. Et c'est comme un renouveau pour que l'enfant s'approprie encore plus sa vie, pour lui souhaiter des bonnes chances. Donc il y a des trucs d'étape de la vie pour le célébrer. Et au Kenya, dans le cadre du documentaire, j'ai eu la chance d'assister à une cérémonie du nom, comme ça, où un enfant chez les Maasai a eu son prénom, cela au bout de 6 mois. Et c'est vrai que dans leur tradition Maasai, en fait, cette femme, quand elle est enceinte, la maman, elle va arrêter de se couper les cheveux. Elle va porter la vie, donner la vie. Et 6 mois après que son enfant soit venu au monde, sa mère à elle, donc la grand-mère de l'enfant, va raser la tête de l'enfant. Tout le village va ensuite se réunir et décider du prénom. Et voilà, encore une fois, il y a un rite de passage, un rite de vie qui se fait par les cheveux.
Salon Joséphine Mélissa, bonjour. Ok, donc c'est pour votre premier rendez-vous, c'est bien ça? Quel est votre nom, s'il vous plaît? Ok, donc vous êtes bien enregistrée. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, l'assistante sociale, sur le salon Joséphine?
Je suis Léa Gondy, je suis assistante sociale de formation et je m'occupe de la coordination du salon Joséphine. Donc le salon Joséphine est un salon de beauté sociale à vocation de réinsertion socio-professionnelle situé à Clermont-Ferrand, dans l'objectif du coup de travailler sur la confiance et l'estime de soi dans le cadre d'un parcours de réinsertion sociale ou destiné aux femmes victimes de violences conjugales.
Et vous pouvez venir une fois par mois pendant une année. Voilà, la participation pour la socio-coiffure, c'est 3 euros. Ça va? Ça vous convient? Ok, ça marche. Donc moi, je suis Mélissa, je suis la socio-coiffeuse. On aura rendez-vous ensemble.
Ce qui est important d'indiquer, c'est que nous sommes portés par le CCS de la ville de Clermont-Ferrand. Donc nous sommes bien un salon social. Donc CCS, Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Clermont-Ferrand. Donc nous ne sommes pas une association.
C'est d'accord pour vous?
Derrière ce montage de projet, il a fallu convaincre effectivement la dimension politique. Et effectivement, il a fallu lutter contre des préjugés du style « c'est pas parce qu'on fait un chignon qu'on va réussir un entretien d'embauche », par exemple. Venir ici, c'est pas juste se faire un chignon, c'est-à-dire que les deux professionnels vont vraiment travailler avec les personnes. C'est la différence entre de l'esthétique et de la socio-esthétique, c'est faire avec la personne et pas donner du réconfort ou du soin. C'est pas du tout la même chose. Alors les personnes qui sont accueillies au salon sont des personnes majeures jusqu'à à peu près 60 ans, puisqu'on accueille des personnes qui sont dans le cadre d'une volonté du retour à l'emploi, ou alors des femmes qui sont en situation de vulnérabilité en lien avec les violences conjugales. Voilà, donc après on accueille par le biais de prescripteurs, de partenaires prescripteurs. Ce sont uniquement les travailleurs sociaux et les conseillers en insertion professionnelle qui peuvent orienter les personnes au salon Joséphine.
Oui, vous attendiez avoir un salon comme celui-là?
Non, absolument pas.
Vous attendiez à
quoi? Je me crois dans un salon, réellement, un salon de coiffure, tout simplement.
Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous avez remarqué de différent ici par rapport à un salon de coiffure?
L'accueil et la gentillesse.
Ah, ça me touche ce que vous dites. L'accueil.
Oui,
tout à fait. C'est marrant parce que c'est pour ça que j'ai quitté les salons de coiffure.
Oui, mais l'accueil fait beaucoup.
J'ai quitté les salons de coiffure il y a 10 ans. Je voulais absolument poursuivre. Mais plus dans ces conditions, en fait. Donc, j'ai démissionné à la naissance de mon deuxième fils. Et puis, j'ai cherché quoi faire pour continuer à prendre soin des gens, mais différemment, en fait, sans qu'il y ait le rapport avec l'argent, avec la rapidité, la rentabilité. Oui. Et ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas été dans un salon de coiffure avant de venir ici?
2 ans.
Et là, du coup, de revenir prendre soin de vous?
C'est important.
Oui.
Pour moi, ça me valorise aussi, et puis je me sens mieux quand même, bien coiffée, avec une couleur.
Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez évité d'aller à certains rendez-vous parce que vos cheveux n'étaient pas colorés, c'est ça?
Oui.
Oui. Pourquoi?
Parce que je me sentais pas bien, donc je trouvais que c'était pas, même si ma tête est propre, il y avait quelque chose qui
Me dérangeait.
Oui. Qui ne me correspondait pas.
Ouais.
Parce que j'ai toujours eu, comment dirais-je, souvent j'allais chez le coiffeur. Hein. Bon, quand je travaillais, j'allais tous les deux mois chez le coiffeur.
Il fallait être présentable.
Absolument.
Ok. Tout à fait. Et pour vous, du coup, d'avoir les cheveux avec des repousses blanches, c'était pas présentable ?
Non, du tout.
Donc vous n'êtes pas allé au rendez-vous ?
Non.
N'importe quel rendez-vous, genre médicaux, amicaux ou autres, vous n'y allez pas ?
Non.
À cause de votre présentation ?
Oui. Au début, j'étais un petit peu gênée, un petit peu honteuse de ma situation actuelle.
D'accord.
Et en parlant avec vous, tout en parlant, eh ben, je me suis un petit peu détendue, on va dire.
Oui.
Et j'étais agréablement surprise du fait d'être venue. Et qu'après, j'étais très contente. Même, je suis allée chez maman, chez ma maman, lui expliquer.
Génial. Là. Lui montrer votre coiffure ?
Oui, absolument, oui, oui.
Ok. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'était votre maman qui vous avait donné l'argent pour venir.
Oui.
Je vous avais dit non, mais si vous ne pouvez pas payer, vous paierez le mois prochain. Et oui, vous m'aviez dit non, c'est important pour moi de payer.
Absolument, tout à fait. Ouais. C'est important. J'ai travaillé chez Benetton pendant 5 ans, de magasin fermé, donc licenciement économique. Mais je suis restée 6 mois au chômage. Après, j'ai travaillé du pareil au même, voilà, avec mon enfant. Il a fermé ce magasin. Puis je me suis retrouvée au chômage à nouveau.
Puis après, vous étiez lancée dans une belle reconversion, si je me souviens bien.
Oui. Vous parlez de la radio. Je faisais les interviews. Pigiste aussi, je l'ai fait. Mais entre-temps, j'ai eu une rupture d'anévrisme, donc j'ai eu un mois et demi de coma, et c'est pour ça que les choses sont arrêtées. Mais j'aimais beaucoup la radio.
Bon, voilà, j'ai appliqué votre couleur. Maintenant, on va laisser poser 20 minutes.
Oui.
Et je vais vous installer sous l'appareil qui chauffe. Allez.
Et après, j'ai dit que c'était chez Joséphine, mais bon, je leur ai dit que c'était...
C'est super.
Mais je suis contente de dire je vais chez le coiffeur.
Ouais. Oui. Ça, c'est bon pour l'estime de soi.
Oui.
Ouais.
Moi aussi, j'ai le droit d'aller chez le coiffeur.
Ouais, c'est ça.
Malgré mes soucis, enfin malgré mon parcours, depuis quelques années, mais je ne travaille pas pour aller chez le coiffeur, en fait.
Donc, comme vous ne travaillez pas, vous n'allez pas chez le coiffeur.
Oui.
Okay.
C'est pas l'argent en lui-même, c'est-à-dire, enfin, c'est l'argent, mais de me dire non, cet argent, c'est pour manger, c'est pas pour aller faire la belle, enfin, aller chez le coiffeur. Non, t'as des choses à faire, avant tout, payer tes factures et puis voilà, le reste. Mais je me suis dit que finalement, je ne méritais pas non plus de prendre soin de moi, étant donné que je travaillais pas, que je suis en invalidité due à mon accident. Et que même si je fais des démarches, il faut que je sois présentable. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai décidé de venir ici aussi. Parce que comme je perdais confiance en moi, j'avais plus de trop le goût à déjà à m'habiller, à me coiffer. Depuis quelques temps, ça va mieux. Je reprends confiance, petit à petit. Déjà, quand on regarde une personne, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde le visage, n'est-ce pas ? La coiffure. Et puis, je sais que les employeurs chez qui j'ai été, j'ai travaillé, c'était la coiffure. Avec la coiffure, on voit si vous êtes quelqu'un de, entre guillemets, bien. La coupe, les cheveux propres, une belle couleur, vous comprenez ça ? Voilà. En fait, j'aime bien qu'on me regarde. C'est pas hautain, je suis pas hautaine, c'est pas prétentieux du tout. C'est je suis là, j'existe. Pendant quelque temps, je n'ai pas existé, je passais incognito. Mais voilà, c'est moi avec les cheveux roux, c'est voilà. Je suis quelqu'un.
Le
le cheveu donne l'apparence de la personne. C'est-à-dire,
Michel Messu.
C'est l'image publique que l'on va donner. Et à cette image publique, on va associer un certain nombre de caractères, de traits qui vont signifier en quelque sorte ce que l'on veut paraître aux yeux des autres.
La coiffure, on l'a fait, on l'a défait.
Michel Perrault.
On va chez le coiffeur, pas toujours, quand on veut, etc. Donc, c'est plus libre quand même qu'autrefois. Maintenant, que les femmes, comme les hommes d'ailleurs, n'en aient pas fini avec l'idée de leur corps et de la séduction de leur corps, c'est évident. Faut pas croire que la libération vient de l'indifférence au corps. Je crois pas. Je crois que nous, si nous disons que nous sommes indifférents à notre corps, on se leurre un peu. On a quand même envie d'être, si on est regardé, que le jugement soit plutôt positif. On va quand même pas faire une société de, je sais pas quoi, moi, de rien du tout, de plat, de... Non. Les jeunes gens sont peut-être plus libres. Ce qui me frappe beaucoup, moi, dans les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est plutôt la tendance aux cheveux longs. Alors que dans ma génération, on les portait plutôt courts. Et là, les cheveux longs, ça vient peut-être aussi du fait qu'elles se coiffent elles-mêmes. C'est vrai que la fréquentation du coiffeur était beaucoup plus importante dans les générations précédentes. Et aujourd'hui, chez les femmes d'un certain âge, qui ont gardé les habitudes qu'elles avaient, que parmi les jeunes femmes. Qui portent les cheveux longs, se débrouillent avec ça, se les lavent elles-mêmes, se les coiffent elles-mêmes, et vont pas très souvent chez le coiffeur. Ça n'a plus d'importance, ça n'est plus connoté d'un point de vue de l'émancipation. Mon corps est à moi.
On avait fait un petit shampoing avec des trucs qui grattent.
Quelle chevelure incroyable, Daniel.
Oui.
Oh là là. Ça fait combien de temps que vous les laissez pousser?
Ben, ça fait 4 ans.
C'était quoi l'élément déclencheur de vouloir garder vos cheveux longs?
C'était le décès de ma maman.
Voilà. Et elle aimait vos cheveux longs? Oui, avec vos cheveux longs, bouclés, avec vos mèches blanches. Mmh. Franchement, ils sont incroyables. On doit vous le dire, non, souvent?
Oui.
Oui.
On me dit que je ressemblais un peu à tout. Bon, on m'a dit le Père Noël, on m'a dit Jésus, on m'a dit Karl Marx, on m'a dit un clochard, on m'a dit que je ressemblais à une bête.
Une bête.
On m'a dit que je ressemblais à un roi.
Un roi
Oui, c'est pas mal.
C'est plus prestigieux.
Voilà, un juge aussi.
Un juge.
J'ai fait penser à un juge. Alors, okay. Il y a des juges qui ont les cheveux longs, je sais pas.
En tout cas, ça suscite de nombreux commentaires.
Ah, de nombreux commentaires.
Ça laisse pas indifférent.
Voilà, on m'a dit le baker. On m'a dit pas mal de choses.
Vous me pensez à la chanson. Vous faites toujours penser à quelque chose. C'est terrible, et... Daniel.
Oui.
La chanson de... C'est Antoine, le chanteur, c'est ça?
Oui.
Ah, c'est ça. C'est quoi les paroles, déjà? Vous vous en rappelez?
Je ne sais plus.
Ma mère m'a dit, Antoine, va te faire couper les
voilà.
cheveux. Je lui ai dit, maman... C'est quoi?
Je
ne
sais plus.
Vous ne savez plus les paroles? C'est incroyable, cette chanson. Moi, ça me fait rire.
Eh bien, donc... Je suis Daniel, je suis au RSA, j'ai 54 ans, j'ai vécu, je vivais avec mes parents, j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé comme ci, comme ça, des trucs en rapport avec le droit, voilà, voilà. Les contrats, c'est ça, hein, c'est 2 ans et puis hop, on passe au suivant. Le fait de venir ici et de recevoir des soins de beauté, ça fait du bien à la personne. Être bien, être beau, ça aide. Je saurais pas l'expliquer, mais voilà, on se sent mieux. On a moins d'idées tristes, on a plus d'idées joyeuses, on est voilà. Je saurais pas dire.
Vous avez utilisé le produit des mélanges que je vous avais donné la dernière fois pour mettre sur le nœud pour éviter de les casser?
Oui.
Ça a fonctionné quand vous l'avez utilisé?
Oui.
Parfait.
Absolument.
Parce que Daniel avait une manière assez forte, un coup de ciseau dans le nœud et puis hop, problème résolu.
Voilà.
Donc quand je l'ai rencontré, il y avait des mèches courtes, des mèches longues, hein, c'est vrai? De
Tout
toute
à fait.
Taille, j'ai dit, que s'est-il passé?
Tout à fait.
Vous m'avez expliqué votre manière de démêler vos cheveux.
Voilà.
Un grand coup de ciseau dedans.
Daniel, on va pouvoir s'installer au shampoing, s'il vous plaît. Je vais aller chercher le marc de café pour faire le gommage. D'accord, on va installer. Allez-y, glissez. Je suis au max, moi, pour la hauteur. Là, c'est parfait. J'arrive.
J'ai commencé à les laisser pousser il y a une dizaine d'années. Mais je l'ai coupé un petit peu quand même. Ils étaient longs, mais pas très longs. Et donc, c'était à l'époque où ma maman est tombée malade. Et elle aimait quand même que j'ai les cheveux un petit peu longs. Donc, c'est pour ça que j'avais commencé à les laisser pousser. Et puis, ben, quand elle est décédée, j'ai fini de les laisser pousser davantage. C'est important. C'est... Voilà, c'est par rapport à elle. C'est... Bon. C'est sentimental. Voilà, mais j'ai plein de raisons, en fait, d'avoir les cheveux longs. J'ai cette raison-là, bien sûr. Mais j'ai d'autres raisons. Déjà, je me plais. Quand je me regarde dans le miroir, je me plais avec les cheveux longs. Je me préfère avec les cheveux longs. Il y a aussi la volonté de renvoyer à la société l'image de ce qu'elle a fait de moi. Elle a fait de moi un petit peu marginal. Donc, je lui le renvoie. Et ben, puisque je suis à l'écart, j'ai un physique différent. Voilà. Il y a aussi ça, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui ont le physique de leur état dans la société. Les gens qui réussissent, ils n'ont pas ma tête.
Oh yeah! Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît.
Elle a fait du beau travail, hein.
Oh yeah.
La dernière fois aussi, elle avait fait du beau travail.
L'autre jour, j'écoute la radio en me réveillant.
Là, je ressors, je ressemble au roi de trèfle.
Ton air qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette.
Les cheveux en quatre. Épisode 1 et le cheveu fut.
Oh yeah.
Une série documentaire de Claudia Prolongeau, réalisée par Clémence Grosse. Avec les enfants de l'école élémentaire Léonard de Vinci à Nogent-sur-Marne, les clientes du salon Marc Fabian à Strasbourg, Marc Lynn, Michel Messu, Bertrand Lançon, Michel Perrault, Marc-Aurel Brébia, Ambre Dupont, Mélissa Jamon, Léa Gondi, Marie et Daniel. Merci à Élise Aignon, à Lucie Mauclair et au Salon Joséphine de Clermont-Ferrand et à Jeanne Boézek.
Oh yeah.
Lecture, Karine Aubin et Slimane Yefsa. Prise de son, Hervé Dubreuil, Alexandre James, Guillaume Ledu, Lucien Lefebvre. Mixage, Guillaume Ledu. Documentation, Annelise Signoret.
Oh yeah.
Documentation musicale, Marion Guilhem et Antoine Vuillose. Archivina, Emmanuel Luccioni. Coordination, Johanna Bedeau. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Les pages web, c'est sur franceculture.fr.
Oh yeah.
Et le podcast sur l'appli Radio France. À suivre, Les cheveux en quatre. Épisode 2, Cheveux en bataille.